Bien, chers amis, bonjour, pour ceux que je n'ai pas vus. Voilà, je vais vous faire une conférence aujourd'hui, et qu'on m'a demandé de faire une conférence sur les savants fous, et donc vous savez que j'ai un peu de documentation, donc j'ai été dans ma bibliothèque chercher la documentation au sujet des savants fous, et je suis tombé sur cette revue, et finalement j'ai trouvé que c'était mieux. Alors on ne parlera pas des savants fous, on va parler...
Ah,
des
feuilles.
Ah non, vous êtes venu pour les savants fous.
Bon, allez,
on va parler des savants fous. Donc, par contre, j'ai feuilleté la revue, et puis une fois que je l'ai lu, bon, je l'ai rangé. Et je me suis précipité vers un document qui me sert très souvent. Alors, c'est une longue série encyclopédique que je vous conseille. Et on y trouve vraiment à peu près tous les sujets de notre époque. Et c'est très facile de faire des conférences quand on dispose de la collection complète de Picsou Magazine. Et vraiment, c'est une revue qui a réponse à tout. D'ailleurs... si vous étiez penché un peu sur le sujet, vous-même, vous auriez pensé au plus célèbre des savants fous, qui est en même temps le plus sympathique, qui est Géraud Trouve-Tout. Voilà. Donc Géraud Trouve-Tout, c'est un peu le prototype du savant fou à la bonne franquette. C'est-à-dire, c'est le savant qui est fou, mais pas de façon hostile. C'est le gentil fou, et qui est capable de répondre à toutes les sollicitations d'une façon... parfois un peu curieuse, mais qui, dans les strips de Disney en tout cas, cette sollicitation va amener à une génération d'inventions qui, pour les anciens d'entre nous, rappelle un peu celle d'Eric dans Âme Vaillante. En fait, il n'y a pas beaucoup de traditionalistes dans la salle, ce qui est dommage. Enfin, bon. Donc on a des inventions un peu farfelues et qui témoignent de ce que peut être le savant fou. C'est-à-dire cet aspect-là, l'aspect amical, sympathique, et qui va rendre service. Donc on a une interrogation, on va voir Géraud Trouve-Tout, il va donner une solution au problème technique qui lui est soumis. Évidemment, dans son cas à lui, ça va certainement déboucher sur une catastrophe, mais une catastrophe innocente. S'il invente une machine pour aller dans le passé, il est fort probable qu'on va se retrouver dans le futur. Donc, source de gags, et c'est le premier des savants fous auquel on pense, et le plus ordinaire. Mais ceci dit, Picsou Magazine nous présente une autre facette du savant fou. Je vous disais que c'est vraiment une revue très très précieuse, et là, on constate que par rapport à Géraud Trouve-Tout, on a déjà une petite différence. Ceci dit, on a ici au milieu une photo du savant fou, et c'est un document précieux, parce qu'il va nous permettre de reconnaître tous les autres savants fous de l'histoire de la littérature, et même au-delà. Donc je me suis muni de cette photo, et j'ai continué mon exploration de la littérature populaire. Évidemment, le premier de ces savants qui ont poussé la connaissance et l'expérimentation vers leurs limites, c'est le docteur Frankenstein. Alors le docteur Frankenstein, à proprement parler, n'est pas un fou. C'est tout simplement un scientifique qui s'interroge sur l'univers, et qui se demande s'il ne peut pas percer les mystères de ce même univers et arriver à créer, comme Dieu, une créature plus ou moins humaine. Et évidemment, tout le monde sait que le résultat de ses recherches sera tourmenté et regrettera toute son existence d'avoir été une réussite. Ceci dit, c'est dès 1818 l'apparition très très forte de l'idéal scientifique dans la littérature populaire, et l'interrogation quant à la créature, à la réalité de la créature, ce qu'est une créature, qu'est-ce que ça veut dire que de donner la vie, et donner la vie, en réalité, dans ce cas-là, sans âme. Donc, dès 1818, on se dit, peut-être que l'homme, par des moyens artificiels, ne pourra pas se recréer. Il ne pourra recréer qu'une créature handicapée. On va voir que cette notion va évoluer au fil du temps. Mais en très vite, on va basculer sur une autre vision de la folie chez les scientifiques. Et plutôt que de prendre un texte plus célèbre de Verne, ici, j'ai choisi le docteur Ox. Le docteur Ox, c'est très amusant. Il n'y a plus de Belges dans la salle, je crois, hein, donc tout sera consensuel. C'est, le docteur Ox, c'est un scientifique, un génie, et qui pourrait résoudre, oui, c'est une très bonne histoire, pour résoudre un problème épineux de vengeance, va décider de massacrer toute une population en la gazant. Et là, on a alors un savant aussi performant que le docteur Frankenstein, mais qui va, au lieu de se tourner vers la recherche, vers la science la plus pure, utiliser ses connaissances pour assouvir une basse vengeance. Alors, en l'occurrence ici, c'est une vieille querelle qui sépare deux villages belges, sachant qu'il y a plus de 400 ans, avant l'intervention du docteur Hux, les vaches du village voisin sont venues paître sur un pré communal du village du docteur Hux. Donc il aura fallu tout ce temps pour développer une vengeance et détruire la population du village voisin. Évidemment, tout est humoristique, mais donc là, on a une autre forme du savant fou, le véritable savant que l'on aime, nous, en réalité, parce que Géo prouve tout, on l'aime bien, mais il ne nous fascine pas. Vous verrez qu'à la fin de cette conférence, vous vous rendrez compte que, comme moi, vous aimez les savants maléfiques, les savants torturés et qui s'attaquent au genre humain.
Ils ont quelque chose à dire.
Ils ont quelque chose à dire. Un autre de ces savants, c'est le docteur Jekyll. Le docteur Jekyll, pareil, c'est comme le docteur Frankenstein. C'est quelqu'un, c'est le résultat de l'époque des Lumières, mais aussi de la technologie qui commence à apparaître et qui laisse transparaître des perspectives étonnantes par le vecteur de la science. C'est donc quelqu'un qui va fouiller les mystères scientifiques pour essayer de fabriquer plus que l'homme. Dans son cas, bien entendu, il ne fabriquera pas plus que l'homme, il fabriquera Mr. Hyde qui révélera les travers de l'espèce humaine. Le docteur Jekyll est un personnage victorien, donc c'est quelqu'un d'assez engoncé dans ses certitudes, dans sa société, et ses expérimentations scientifiques feront jaillir un monstre bestial qui se moque de toutes les convenances des individus. Heureusement, dans son cas, c'est une situation qui est réversible, et ce qui lui apportera plus ou moins réversible. Bien sûr, je vois que Patrick émet quelques doutes non formulés. De les formuler, bien entendu. Enfin, bon, cette situation est réversible. Et peut-on dire, dans le cas du docteur Jekyll, que c'est un docteur fou, un savant fou? Pas vraiment, parce que dans sa situation de scientifique, il regrette amèrement de se retrouver dans la peau de Mr. Hyde. Mais c'est quand même une étape importante dans notre littérature du développement de ces thèmes. Là, nous avons une autre image qui montre l'opposition de Jekyll et Hyde. Et on a, dans le sommet droit de l'image, la figure tutélaire du crâne qui indique bien que cette science est maléfique et mortelle. Un autre savant fou qui apparaît dans les aventures victoriennes de Sherlock Holmes, c'est le professeur Moriarty. Alors là, ce n'est pas un savant qui expérimente réellement sur un plan scientifique, ce n'est pas un homme en blouse et qui manipule cornu, acide et Begbenzel. C'est un savant extrêmement puissant, probablement l'alter ego maléfique de Sherlock Holmes, quelqu'un qui peut développer des théories intellectuelles hors du commun et qui a une philosophie de la vie qui se résume à un seul mot, l'argent, ou deux mots, l'argent et le crime. Donc il va mettre toutes ses capacités intellectuelles, toute sa force de savant. Il a quand même écrit un livre qui étudie le mouvement des astéroïdes dans l'espace, donc ce qui nous rapproche de notre thème. Mais toute son énergie créatrice va être tournée vers le crime, l'organisation d'une société criminelle et le développement de ressources parallèles. Donc c'est encore une autre facette de ces savants qui, peut-être, par un excès de connaissances, basculent dans l'inhumanité. Un autre de ces savants, qui n'est pas foncièrement mauvais non plus, c'est le fameux docteur Moreau de Wells. Et lui, ça va être un peu comme le docteur Frankenstein, il va être préoccupé par la création, mais non pas de la création d'une créature humaine, mais par l'évolution. L'évolution humaine apportée à des animaux. Donc il va réunir toute une ménagerie qu'il va essayer d'élever à un stade humain. On sait tous, parce que ces livres sont extrêmement célèbres et ont été lus universellement, que cette démarche va être sanctionnée par un échec cuisant. Mais c'est quand même une hypothèse importante et qui sera, je ne vais pas en parler parce que il y a tellement de choses à dire, mais c'est un thème qui sera repris. L'élévation de l'humanité va faire partie de l'humanité, excusez-moi, de l'animalité va faire partie de nos genres préférés. Et on peut même dire que dans des ouvrages de science-fiction très récents, on constate l'apparition de créatures animales qui ont, par le bistouri, par l'évolution génétique, obtenu une conscience, la parole, l'intelligence et même une citoyenneté sociale. Tous ces animaux sont les héritiers des expérimentations du docteur Moreau.
Moreau est quand même fou, parce que c'est un sadique.
Oui, oui. Alors, voilà, à propos de sadisme, nous avons ici le docteur Quartz, qui est aussi un scientifique, mais complètement dévoyé, et c'est quelqu'un qui est tellement dévoyé qu'il considère que son art, qui est la vivisection, est un des arts majeurs, et qui va l'apporter, qui ne va plus voir dans la vivisection que la beauté du geste, la modification de la forme humaine, et qui va développer ses exactions à un point tel que, par exemple, chez lui, son living est décoré par les yeux de ses victimes. Et quand on rentre chez lui, on a l'impression qu'il y a des papillons au mur. Eh bien, en réalité, non, ce sont des systèmes oculaires complets qui sont agrafés sur les murs. Tout ce qui peut amener de plus beau à un homme, lui semble-t-il, ou à une femme, parce qu'évidemment, il a une préférence pour torturer les femmes, c'est de la dépecer vivante. Il emploie tout son art de chirurgien, mais dans un esprit complètement dévoyé. Alors, le seul bonhomme qui lui plairait le plus de dépecer, c'est Nick Carter, puisque c'est l'ennemi, c'est sa némésis, et il va former tout un tas de scientifiques de plus petite tour que lui dans ce but-là et créer une espèce de ligue de malfaiteurs, c'est pratiquement une des premières qui apparaissent dans ce genre de littérature, cette ligue est tournée vers le mal. Et pratiquement tous les ligueurs disposent de capacités scientifiques ou intellectuelles. Alors à cette époque-là, c'est la fin du 19e, on considère que les capacités spirituelles ou mystiques font partie de la science. Donc il ne faut pas prendre ça sur un plan trop limitatif. On n'a pas que des médiumsphères qui exercent leur terreur. Il y a aussi des hypnotiseurs, des magnétiseurs dans la bande du docteur Quartz. C'est un personnage intéressant dont je vous recommande la lecture. Peut-être d'ailleurs qu'un jour ou l'autre, ça sera disponible en français. Mais je ne peux pas en dire plus. C'est un personnage à facettes. Voilà une autre représentation du docteur Quartz dans un fascicule beaucoup plus récent où l'aspect démoniaque est représenté, même s'il n'est pas réel, ce n'est qu'une vue d'artiste. Mais on symbolise bien là, au travers de cette image, ce qu'est le docteur Quartz. C'est un scientifique poussé à l'extrême et qui se prend pour Lucifer. Et on peut dire, finalement, qu'il est Lucifer. Bon, il n'y a pas que dans les œuvres étrangères que l'on va trouver des scientifiques dévoyés, des savants fous. On a Gustave Le Rouge en France, qui est un prosateur de première importance qui a inventé
et
un peu méconnu, oui. Ces œuvres ne sont pas très facilement à trouver. Elles sont rééditées, oui, en bouquin. Et donc, il invente le docteur Cornelius. Alors, le docteur Cornelius fait partie de la même veine de scientifiques fous que le docteur Quartz qu'on a vu, ou même les docteurs, les médecins plus anciens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jouer sur le corps humain. Mais dans son cas, lui, il n'est pas question d'élévation de la race, d'élévation spirituelle. C'est tout simplement utiliser le corps humain pour arriver à des fins criminelles. En l'occurrence, il propose à des bandits, des criminels, de modifier leur physique, en général leur physionomie, de façon à pouvoir se cacher et profiter de leur larcène, de leur crime, sans être inquiétés par la police. Toute la série du docteur Cornelius, qui est d'abord paru en fascicule, tourne autour de cette idée du médecin maléfique. Et c'est encore aujourd'hui parfaitement visible, et c'est même passionnant. Alors, toute cette ambiance se situe, ça commence dans l'Amérique de la fin du 19e, ça arrive en France, Et on a aussi tous les autres thèmes de Gustave Le Rouge, c'est-à-dire la fortune, la jalousie et puis le faux-semblant. Tout ça est exploité de façon assez magistrale. Et je parle sous l'autorité de grands spécialistes qui sont en rapport.
Je cautionne.
Jusqu'à présent, ça va. Bon. Donc, voilà une des rééditions du mystérieux docteur Cornelius avec tout un tas d'autres aventures signées par Gustave Le Rouge. On peut avoir une préférence pour le docteur Cornelius. D'autres ouvrages ont quand même moins bien passé une fois du temps. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, on va avoir d'autres scientifiques qui, eux, sont de moins belle eau, qui sont des seconds couteaux, des savants fous, mais à la petite semaine, quoi, parce que tout le monde n'a pas pour ambition de modifier l'humanité, d'élever la nature animale ou de conquérir le monde. Ici, dans Chéri Bibi, on a un savant fou aussi, il est peut-être un peu inattendu, mais c'est le fameux Canac. Et le Canac va exercer son art comme le docteur Cornelius, mais d'une façon beaucoup plus basse. Il va opérer ses amis de façon à les soustraire à la police. Un peu plus tard, apparaît dans une série fasciculaire un savant fou qui est intéressant dans la mesure où il va nous donner un reflet de son époque. C'est le docteur Satan qui apparaît dans les aventures de Bibi Lolo. Alors bon, le titre n'est pas très très bien choisi, ça fait vraiment série pour les enfants, mais dans cet épisode-là où intervient le docteur Satan, qu'on reverra de temps à autre, il nous est spécifié, la série est de 36, il nous est spécifié que même Adolf Hitler a lancé un mandat d'exécution immédiate sur ce scientifique tellement il est redoutable. C'est amusant. Et c'est en même temps, au passage, une des rares mentions de la menace que la menace nazie fait peser sur le monde libre à cette époque-là. Dans la littérature populaire, on n'est pas très politisé. Eh bien, dans cette série un peu insignifiante, il se trouve qu'on a des mentions directes à l'actualité. Et le docteur Satan, c'est comme le docteur Quartz, comme le docteur Cornelius, lui-même se qualifiant toutefois de voleur d'âme, c'est un médecin qui est capable de faire des miracles avec son bistouri. Et donc lui...
Il nous en faudrait beaucoup.
Ouais. Et lui, alors bon, il peut bien entendu modifier la morphologie d'un criminel pour le cacher, mais son plus grand art, c'est de donner le visage d'un autre individu à un criminel pour qu'il puisse se substituer à lui. C'est relativement inédit à l'époque. Et bon, comme le traitement est fasciculaire, ces épisodes sont très rapides et l'auteur ne développe pas vraiment le personnage, mais en raison de cette origine, Hitler donc envoie tous ses SS contre lui et recommande même qu'il ne soit pas capturé mais qu'il soit tué à vue, ben, ça nous donne une perception sur ce que l'on pouvait concevoir d'Hitler à l'époque. C'est-à-dire qu'il était dangereux, mais ce n'est pas Hitler d'après-guerre. Ce n'était pas le démon du mal, il était dangereux. Et lui-même pouvait avoir peur de gens qui étaient plus magnifiques que lui. Alors la série Bibi Lolo se continue, il y a des thèmes de science-fiction, il y a des thèmes fantastiques, ainsi de suite. Alors qu'au départ, c'est parfaitement anodin, c'est tout simplement un jeune breton qui va rentrer en possession d'une fortune considérable et que les agents allemands vont vouloir lui arracher pour des raisons de jalousie entre les peuples, on s'en doute bien. Et alors, autre caractéristique de la série, quand elle sera rééditée après-guerre, sous un autre titre, sous un autre nom d'auteur, eh bien, toutes les mentions à Hitler auront été éliminées. Parce que forcément, après-guerre, Hitler, c'est le génie du mal. Donc on imaginerait mal que ce génie du mal puisse se priver d'un scientifique et d'un médecin fou comme le docteur Satan, alors qu'on sait très bien qu'il en a utilisé des tombereaux pendant la guerre. C'est amusant, c'est un détail historique qui m'a semblé bon de noter, même s'il est un peu... il n'est pas parfaitement représentatif du genre. Après, il y a des interventions en science-fiction. On connaît par exemple Bouvourville qui a fait toute une série où il pressent la guerre 39-45, la menace nazie, ainsi de suite. Mais bon, ce sont quand même des exceptions dans notre domaine. On a, alors, le docteur Mabuse, qui lui aussi va faire partie de cette génération de médecins Alors, dans son cas, on ne sait pas si c'est un as du bistouri réellement, c'est plutôt un fascinateur, quelqu'un qui va impressionner les gens, développer autour de lui une cour pour son propre profit. Bien souvent, on parle sur Docteur Mabuse parce qu'on a vu les films expressionnistes allemands et puis au-delà, mais en réalité, c'est quand même une œuvre littéraire qui est apparue en langue allemande sous la plume de Norbert Jacques, qui était un luxembourgeois germanophone. Et il, après, les thèmes développés sont à peu près les mêmes. Donc, là, je fais un aparté un peu savant, c'est-à-dire que tous ces savants fous de cette génération-là, de cette époque, peuvent se retrouver dans des ouvrages bien sérieux qui n'étudient pas la littérature populaire, mais qui montrent que cette époque était très fertile dans ses préoccupations et dans l'apparition de la menace scientifique. Alors là, nous avons le... Oui, c'est Tesla. Alors Tesla... c'est un savant, un vrai savant, un être humain. Ce n'est pas quelqu'un de maléfique, mais c'est quelqu'un qui va s'intéresser à une science qui est mystérieuse. C'est l'électricité. La science électrique fait son apparition à la fin du XIXe siècle et c'est une véritable révolution. C'est une quantité que l'on ne peut pas appréhender et en attendant, elle est capable d'énormément de choses. On peut s'éclairer, on peut même... on peut se véhiculer, enfin, on peut mettre l'électricité à toutes les sauces comme on pensait le faire avec la vapeur. Et Tesla a influencé des quantités d'écrivains, de romanciers, et on va voir apparaître après lui une quantité de magiciens de l'électricité. Et alors, ce sont des savants, des gens qui ont la connaissance, et pour qu'ils rentrent dans notre domaine, il faut qu'ils soient fous. Donc, la plupart d'entre eux va développer des capacités leur permettant d'exploiter leurs contemporains, voire eux-mêmes d'acquérir des pouvoirs surhumains. Et ici, on a un volume qui est paru dans la collection rouge de chez Talandier, qui est une collection qui est plutôt sociale d'habitude, où on a un médecin qui a trouvé, alors à la fois par l'électricité et par une combinaison chimique, le moyen de propulser son esprit dans les corps de ses contemporains, ce qui lui ouvre la voie à l'immortalité. Mais comme il est en même temps à la tête d'un immense réseau criminel, il doit résoudre le problème de la perpétuation de sa mainmise sur ce réseau. Et il va le résoudre en présentant systématiquement à ses collègues son héritier. Il présente un individu sans que ce même individu le sache, à sa bande en disant voilà mon second, je vous le présente et s'il m'arrive quelque chose, vous devrez y obéir, c'est lui qui disposera de ma fortune, ainsi de suite. Et une fois que ce bonhomme a été présenté, il est invité dans le château du Forban, qui le tue et lui intègre son propre esprit. Et ensuite, il peut donc réapparaître et naturellement, son organisation le prend à sa tête, puisqu'il était l'héritier naturel du précédent maître de l'organisation. Donc on a toute une chaîne comme ça qui se perpétue. Et c'est un peu le symbole de ce savant électrique qui est arrivé à se perpétuer au fil des époques dans un roman qui est... Ici, un roman assez social, parce qu'il y a des histoires d'amour, des histoires de modification de personnages, mais avec une forte trame de conjecturale. On a dans la collection bleue de Talandier, là, on va trouver beaucoup plus de savants fous traditionnels. Ce sont des gens qui disposent d'un pouvoir hérité de la connaissance scientifique, mais qui vont avoir des ambitions mondiales. Ou alors, des ambitions assez mesquines, comme dans ce cas-là, je ne trouve plus le mot, mais c'est quelqu'un qui est l'humanité, donc il veut se ménager un espace où il ne sera pas ennuyé. Donc il a développé une invention qui va lui permettre de repousser tous ses contemporains de façon à rester tranquille chez lui. C'est le meurtrier du globe. Donc, les savants électriques prolifèrent. Alors, c'est dommage que Guy et Joseph soient partis, ils auraient pu en citer certainement des dizaines. Mais dans cette époque, dans les années 40-50, on a beaucoup de savants qui sont les héritiers finalement de Tesla. Tesla étant lui-même considéré à l'époque comme un magicien. Dans la presse de l'époque, le côté scientifique est indiqué, mais il n'empêche que par la fréquence de ses inventions et par même son comportement, on le considère plus comme un magicien que comme un scientifique. Le cinéma, bien sûr, va s'emparer de cette figure du savant fou, et on va avoir toute une série de scientifiques qui sont très connus aujourd'hui, même si leurs films ne sont pas si fréquents que ça. On a le docteur Caligari, qui est aussi un genre de fascinateur, et plus intéressant à mon avis, parce qu'il touche plus le domaine populaire, c'est le docteur Fibes. Alors le docteur Fibes, c'est un scientifique de bonne renommée que rien ne prédestinait à la criminalité, sinon que lors d'un accident, sa femme a été blessée et elle a été soignée par des scientifiques, des médecins qu'il considère comme incompétents et qui vont la tuer. Lui-même va rester défiguré à la suite de cet accident. Il est sans voix, mais il va donc développer toute une science de façon à se venger des médecins qui ont perdu son épouse. Alors, les films sont croquignolesques à souhait. C'est-à-dire, en plus de cette vengeance, il va développer un amour immodéré pour l'égyptologie. Le premier film, les sept plaies d'Égypte vont servir d'argument à son premier film. Il va adresser à chacun des médecins qui a perdu sa femme une plaie d'Égypte pour le tuer. Et puis même, dans le second, on va voir qu'il continue sa quête de la recherche de l'immortalité au travers des mythes égyptiens. Donc là, on a la confusion de deux genres populaires que nous aimons tous, c'est-à-dire le savant fou et l'égyptologie fantasmée. Alors en plus, il y a dans ce film-là des idées complètement baroques qui sont vraiment plaisantes. C'est-à-dire que le docteur Fibes est resté défiguré et muet suite à son accident. Eh bien, il va pouvoir s'exprimer en branchant sa trachée sur de gigantesques orgues. Et il s'exprimera en jouant de l'orgue, ou alors en parlant au travers d'un petit orgue de barbarie. Ça donne une espèce de poésie bizarre, fantasque, dans ce cinéma-là, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui est fascinant. Bon, donc il y a toute une série de photos, voilà les dernières diapos. Et pour rester dans notre domaine, je vous signale les deux livres de poche qui ont été tirés des deux films du Dr. Fibes, et c'est un appel au public parce que je ne les ai pas, donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à m'en faire don, vous en serez grandement remercié. On arrive très récemment à un autre savant fou, et là on va retrouver plutôt le savant fou que l'on a découvert en Géo trouve tout, c'est-à-dire c'est l'illuminé, mais l'illuminé sympathique, bienfaisant, et qui est à l'affût de la moindre idée un peu fantasque. Donc son nom, c'est le... Doc Brown, voilà. Le docteur Brown, donc dans la trilogie de Retour vers le futur, qui va aller de boulette en boulette, mais va se révéler aussi un compagnon agréable, et aussi performant, malgré les erreurs qu'il peut commettre. Que la science démente ta compagne. Un autre des savants fous du cinéma, c'est celui qui apparaît dans Austin Powers. J'ai oublié le nom. Voilà, non, c'est pas, il y a Mini Moi et. Oui, le docteur d'enfer en français. Alors là aussi, on a un savant qui est maléfique, mais en fait qui est ridicule et qui est aussi en même temps une parodie de Blofeld, par exemple, du maître du mal des aventures de James Bond. On a cette confusion entre le scientifique et le chef de bande. Bon, les films ne sont pas de très bonne qualité, à mon sens, mais en fait, ils sont appréciés par certains humoristes. Et on peut citer le docteur d'enfer dans la vaste théorie des scientifiques démoniaques. Voilà, il y a des produits dérivés qui existent.
Et un savant fou, que l'on oublie un peu.
Voilà. Michel Serrault.
Non, c'est Michel Galabru. Michel Galabru, donc c'est Alfred, je crois, dans son film, qui, excédé par ses collègues, va devenir un personnage solitaire, acariâtre, et qui va développer ses talents scientifiques pour faire le vide autour de lui. Et j'avoue que quand j'ai vu son Kamikaze, oui, c'est le film Kamikaze, hein, qui parle en 77-79, quand j'ai vu le film, j'ai essayé d'acheter son arme, parce qu'elle est extraordinaire. C'est une arme qui lui permet, en regardant la télévision, de détruire la personne qu'il voit de l'autre côté de l'écran. Et donc, il regarde une émission, elle ne lui plaît pas, et alors il oriente son arme vers la télévision, elle émet un rayon, un genre de rayon de la mort, et qui fait exploser la speakerine ou le présentateur d'actualité. Alors, je pense que nous devrions tous être équipés de ce genre de fusil, parce que ça serait une expression directe de l'audimat, voilà, de la démocratie. Alors, lui, il tue et il fait exploser. Alors, quand on connaît Galabru, on se doute bien que les expressions qu'il utilise et toute la passion qu'il peut transmettre dans son regard, dans sa voix, quand il appuie sur la gâchette, seront aussi savoureux que l'acte lui-même. Donc pensez à ce savant fou, à ce bon Galabru. Oui. Voilà. Bon, alors je ne suis pas trop étendu sur la littérature américaine de Pulp, parce que elle est répandue, l'imagerie est répandue, on la connaît, et puis c'était pas forcément le sujet ici, mais on va trouver dans les Pulps, dans les magazines américains, quantité de savants fous qui sont en général donc des intervenants de la littérature de science-fiction bien connus, mais on les trouve aussi dans d'autres domaines, dans le domaine policier. On va avoir tout un tas de savants déments qui vont inventer des machines à révéler la réalité ou à torturer, ainsi de suite, et qui sont parfaitement savoureux. Jusqu'au à un thème qui est un de mes favoris, c'est ce qu'on appelle la mire menace. Ce sont des histoires simplistes où des savants fous imaginent tous les moyens possibles pour, en général, torturer des femmes. Voilà. Et donc ça a généré toute une gamme de magazines dont les meilleurs sont certainement ceux où les savants fous sont aussi des nerfs. Voilà. On retrouve toujours des savants fous même dans la littérature contemporaine. Chez Koestler, par exemple, il y a beaucoup d'histoires où les savants interviennent, ce sont des histoires scientifiques. Ils ne sont pas forcément fous, mais le développement de leurs inventions, toute la technologie qu'ils entraînent, provoque des métamorphoses. Et dans ce roman, une invention d'un scientifique du pays de l'Est pendant la guerre est dévoyée de façon à provoquer un hiver polaire sur la planète, plus ou moins. Voilà. Un autre savant fou, bien entendu, même si on a tous un peu d'affection pour lui, c'est le professeur Tournesol. Alors, dans le cas du professeur Tournesol, je vais passer assez vite, tout le monde le connaît, c'est un genre de géo-trouve-tout, mais qui trouve son origine dans le professeur Picard, voilà, qui était un scientifique suisse, le grand-père de...
C'était un mec qui était givré.
Oui, il était givré. Un petit suisse. Ouais. De l'aviateur, de l'avion électrique. Donc ce personnage a aussi marqué les imaginations. Il était pas si fantasque que ça, mais il a développé le batiscaf. Il était en avance sur son temps. Il avait un discours qui était assez ouvert et il a impressionné sa génération. Alors il ne faut pas croire qu'il n'a impressionné que Hergé. Il apparaît dans d'autres bandes dessinées, moins célèbres que Tintin, mais il a été représenté à son époque dans plusieurs bandes dessinées et donc c'est un personnage célèbre. Ici, je vous ai mis une autre.
Claire en barre, plus ou moins dans ce sens-là, ça peut se rapprocher. Non,
pas. Si on veut, mais c'est Claire en barre, c'est un archéologue, c'est Picard n'était pas. C'est pas vraiment un scientifique, Claire en barre, dans le sens technologique. C'est un savant, mais pas un scientifique. Donc, je ne l'ai pas cité. Ouais. De toute façon, on pourrait s'amuser, faire un jeu et en trouver plein d'autres. Ici, on a un autre scientifique que vous ne connaissez probablement pas, mais que je ne suis plus à vous présenter, parce que c'est Gaston Planté, qui était un orthésien, qui est l'inventeur de l'accumulateur électrique. On aurait pu dire, ouais, oui, d'accord, c'est sympa, il n'est pas fou. Enfin, c'est ma fierté qui me l'est posée. Et pas que ça, parce que Jacobs l'a utilisé aussi dans ses BD, et il dit du professeur Septimus que c'est l'élève du grand savant Gaston Planté. Ouais, donc on se rattrape comme on peut, mais on n'est pas complètement en sujet. Un autre des savants fous, bien entendu, qui est apparu dans les aventures de Spirou et Fantasio, que vous connaissez tous, c'est le comte de Champignac. Alors lui, il développe ses inventions au travers de sa science gigantesque des champignons, plus ou moins vénéneux, et qui lui permettent toutes les inventions les plus farfelues possibles. Mais le comte de Champignac a aussi, dans les aventures de Spirou et Fantasio, un alter ego qui, lui, est plus tourné vers le mal, c'est Zorbulbe. Alors Zorbulbe, au fil du temps, évoluera, il va finir par rejoindre le côté des bons, parce que c'est quand même un méchant qui est vachement sympa. Donc c'est difficile, c'est bête de le gâcher, à n'en faire qu'un personnage négatif. On va retrouver ce syndrome dans plein de l'histoire populaire où finalement on a inventé un méchant tellement bien que c'est dommage de le laisser courir en prison. Voilà. Alors on va le sortir de sa fange et puis expliquer sa colère, expliquer les motivations de son côté maléfique. Et finalement, on va le voir ailleurs, un écologiste, un frustré, en fait quelqu'un qui n'est pas foncièrement mauvais. C'est un scientifique un peu dévoyé, mais qu'on peut récupérer. La rédemption est possible pour tout le monde. Encore une fois. Alors, le Zorbulbe apparaît pratiquement autant de fois que le comte de Champignac dans les aventures de Spirou et Fantasio. Et la plupart de ces albums sont de bonne qualité. Ils sont souvent bien meilleurs que les simples albums d'aventure. Un autre des savants de la bande dessinée, des savants fous, c'est Léonard. Alors, forcément, Léonard de Vinci, on ne pouvait pas le louper. La bande dessinée s'en est emparée. Alors, en réalité, c'est pas un savant fou maléfique. Il invente plein de trucs inutiles ou en fait anachroniques, puisqu'il va développer une voiture, des armes, des tas d'objets. Mais sa folie transparaît dans le traitement qu'il fait subir à son disciple.
À son disciple qui va inventer la fusée Saturne
5. Voilà, précision utile. Comme quoi, la fréquentation des génies est plutôt bénéfique. Je vous invite à vous rapprocher de la scène. Vous verrez mieux l'écran. Donc, voilà, Léonard. Alors, dans le principe, la série est intéressante. Maintenant, elle est à son 30e volume et elle est complètement essoufflée. Surtout que les gags sont extrêmement répétitifs, malgré l'adjonction de petits personnages secondaires, du chat, de commentaires, de façon inédite, de tuer le disciple, ou du moins de le punir. Donc voilà, et là, dans la couverture du 12e album, les auteurs ont enfin révélé la source de leur inspiration. Vous reconnaîtrez le véritable.
C'est la Joconde.
C'est la Joconde, mais c'est Léonard qui se peint, qui fait un autoportrait de lui-même. Alors, l'œuvre de Tardy, qu'on ne peut pas ne pas citer, regorge de ces savants fous, alors qui sont, eux, des savants très proches des savants électriques que je vous ai cités, de cette période d'entre-deux-guerres, où la guerre menace toujours, les inventions sont dévoyées à des fins militaires, les gaz sont utilisés, mais on a aussi, là, on voit des réminiscences des savants de la fin du XIXe siècle, l'évolution animale, l'utilisation de monstres. C'est un immense fouillis, pratiquement invisible, mais savoureux. D'autres savants fous, alors là, j'ai pris une bande dessinée tout à fait populaire, et on a des archétypes de savants fous de ce genre-là. Donc des gens dont le passé n'est pas décrit, mais qui vont utiliser la science à toutes les fins maléfiques possibles. Là. Et puis, après-guerre, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on va avoir une recrudescence, comme dans le cinéma d'ailleurs, de tout un tas de savants fous qui sont en fait des nazis réfugiés à droite à gauche ou récupérés par une puissance communiste déconnue. Et ces gens-là sont des misanthropes ou des criminels les plus absolus. Celui-ci, d'un petit Riquet Reporter, qui est une série française extrêmement populaire, c'est tout simplement un savant qui s'est enfui en Amérique du Sud et qui défend sa plantation avec une arme à rayon, héritée des armes développées par les nazis pendant la guerre, du moins dans la fiction. On a, de l'autre côté de l'Atlantique, à partir des années 30, la prolifération des super-héros. Alors le super-héros, c'est dans certains cas le produit de la science aussi, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit un savant fou. C'est pour ça que très vite est arrivé dans les aventures de Superman l'archétype du savant fou, c'est Lex Luthor, alors que l'on connaît aujourd'hui grâce aux émissions, aux feuilletons télévisés, ainsi de suite. Mais c'est aussi quelqu'un qui est aussi compétent que Superman et qui va le mettre en échec de nombreuses fois depuis le comic que je vous ai montré, qui va dater de 37 ou 38. Et lui, il va utiliser son intellect là où les autres utilisent la force, les super armes, la technologie. Lex Luthor, c'est vraiment l'ennemi principal de Superman. Il va être utilisé à toutes les sauces, mais je crois que les apparitions les plus intéressantes sont, Patrick, tu me diras peut-être, quand Lex Luthor est utilisé en tant que savant fou. Il s'est transformé petit à petit en espèce de super vilain. Il est moins intéressant, parce que, bon...
La couverture précédente était d'ailleurs basée sur la couverture originale de la biographie de Donald Trump.
Ouais. Avant le passage chez le coiffeur.
C'est
parce que Trump, quand il passe chez le coiffeur, il ressort avec plus de cheveux qu'en rentrant. Voilà. Chez Marvel, on a forcément aussi un savant fou, alors qui est apparu bien plus tard que Lex Luthor, en l'occurrence parce que c'est dans les aventures de Fantastic Four, mais il y a eu aussi pléthore de savants fous dans les séries anthologiques de Marvel dès les années 40-50. Et c'est le fameux Docteur Fatalis, qui est très connu en France, parce qu'il y a, puisqu'il a été abondamment traduit, et le nom de Docteur Fatalis français me semble intéressant. Bon, le docteur, son véritable nom, c'est Docteur Doom, qui veut dire à peu près la même chose, mais le nom français est particulièrement bien trouvé. Et alors lui, c'est un savant, c'est l'alter ego plutôt fantastique de Mister Fantastic. Mister Fantastic, c'est un savant qui est scientifique, et le Docteur Fatalis, lui, va avoir plutôt des origines fantastiques, dans la mesure où il est natif de l'Europe de l'Est, qu'il a un environnement gitan et qu'il a connu, étant petit, la magie des sorcières. Et donc, on a là une opposition entre la science et la magie. On a d'ailleurs un costume assez archaïque pour le docteur Fatalis, une armure, une cape qui rappelle le Moyen-Âge, les moines guerriers. Donc, on va avoir cette opposition entre les deux scientifiques. Le scientifique positif, Mr. Richards, donc Mr. Fantastic, en costume assez inconsistant, bleu, fluide, et puis le scientifique, le savant fou, maléfique, en armure, pesant, mais qui va quand même développer tout un attirail scientifique. Si ses origines sont fantastiques, tout son attirail est fantastique. Et on va le voir, donc, devenir l'archétype de l'ennemi des fantastiques dans une série d'aventures passionnantes. Et bon, j'en ai mis beaucoup, parce que ça me plaît beaucoup. Alors, les Allemands, dans la série Perry, non, il n'y a personne ici, voilà, j'en dis. Voilà, font aussi usage du savant fou. Et d'autant plus que dans l'inconscient populaire, le savant fou est souvent allemand. Donc il n'y a pas de raison que les Allemands n'utilisent pas leur propre savant dans leur bande dessinée ou dans leur littérature. Vous connaissez déjà Perry, vous étiez tous à la conférence de jeudi soir. Et les savants fous, ben, sont des hommes comme les autres. Donc on va retrouver dans les séries extrêmement populaires, Daily France, des savants fous, mais qui ont des appétits. Alors, pour eux, c'est encore plus facile de les satisfaire, parce qu'ils contraignent toutes les façons possibles leurs victimes. Bon, là, on n'a pas de savants fous sur la couverture, mais en fait, c'est suffisamment explicite pour que vous imaginiez ce que peuvent faire ces 10 savants. À présent, on va rentrer.
Oui, le savant fou, je voulais dire qu'il y a un savant fou qu'on aime beaucoup et qui est toujours accompagné de petites amies magnifiques. C'est le docteur Lovelace dans les mystères de Grèce.
Oui, bien sûr. On fera la liste après de tous ceux dont je n'aurais pas parlé. Bon, on a vu tout un tas de savants fous. Donc, on a vu des savants fous européens qui étaient héritiers de Tesla, de Picard, ainsi de suite. On a vu les Allemands, en réalité, qui sont issus de la grande tradition scientifique allemande, et puis des exactions nazies. Mais il ne faut pas oublier quand même des savants, et puis même une race, quelque part. Parce que la race jaune, au 19e siècle, au début du 20e siècle, est perçue comme une race perfide. Donc forcément, tous les savants jaunes ne peuvent être que maléfiques. Et ici, on a peut-être l'ancêtre le plus connu de ces savants, qui est Fu Manchu. Mais Fu Manchu, c'est quand même pas un cas si clair que ça. Parce que c'est un savant maléfique, oui, certes, quand on est britannique, et que l'on constate son opposition aux menées colonialistes en Inde, en Birmanie, ainsi de suite. Mais lui, ben, ne fait que défendre sa propre mare. Il utilise les armes qui sont à sa portée pour se défaire du joug britannique. Donc, est-ce un savant fou? Tout dépend du point de vue.
Il a sa fille aussi.
On va revenir un peu, on va étendre le sujet. Bon, les premières apparitions de Fu Manchu en France sont remarquables, parce que là, dans ce genre d'illustration, on a la synthèse de tout ce que pouvait représenter le chinois à une certaine époque, le jaune, le péri-jaune, tout date de cette époque-là. Et là, on a une vision complètement irréaliste, mais qui est parfaitement acceptée par le lectorat européen, parce qu'il n'y a pas que des Français, hein, à l'époque. C'est-à-dire, la menace est vraiment dans la nature même du jaune. Comme le Tibet, à l'époque, le Tibet, c'était un pays menaçant. C'était pas le Dalai Lama qui est d'aujourd'hui.
Ça partait de 37,
que ça commence. Bon, le docteur Fu Manchu, pareil, se livre à des exactions, mais qui sont discutables. Une belle couverture du CNP, où on a là un raccourci assez saisissant de la vilainie du docteur. On reconnaît parfaitement l'asiatique, les moustaches sont caractéristiques, les yeux bridés, et les sourcils diaboliques indiquent bien sa nature. On a des imitations du docteur Fu Manchu. Ici, Georges Franval a fait un très beau portrait de l'énigmatique Feng Shu, qui va être aussi un scientifique diabolique. Et on voit d'ailleurs là, derrière lui, des cornues qui indiquent bien qu'en plus de sa nature vicieuse de chinois, il y a des expérimentations scientifiques qui vont lui permettre de mener à terme ses menus.
Feng Shu, il déplace les meubles dans la maison.
Voilà. Ah, il est à noter que d'une façon amusante, ce roman va être écrit pour être édité chez un éditeur catholique, mais pas avec ce genre de couverture, parce que ça ne serait jamais passé quand même à l'époque. Et il est un peu affadé. On continue à voir ce stéréotype du chinois maléfique, et là on a un chinois qui verdit, mais enfin on voit bien qu'il laisse tomber dans son verre d'eau un produit qu'on suspecte d'être délétère. Et puis, voilà qu'arrive Einstein. Alors Einstein, les questions savants fous, il s'y connaît quand même, hein, parce que lui, il fait sauter la planète. Mais il va marquer aussi toute une génération de savants, et notamment les savants chinois et asiatiques. Et on va voir, après la guerre, apparaître d'autres savants asiatiques archétypaux, qui sont les savants qui vont se venger de l'explosion atomique qui a frappé, ou les explosions atomiques qui ont frappé le Japon. Donc là, on a une autre préoccupation chez ces gens-là. Ce n'est plus simplement la vilainie ou le choc de culture, c'est la vengeance. Et la sinistre Madame Atomos a été une des figures les plus marquantes dans notre littérature. Elle va générer tout un tas de romans.
C'est le titre superbe.
Voilà, elle est propre le marmot, mais on voit bien encore une fois qu'au-dessous d'elle, c'est une explosion atomique qui se dessine. Elle fait partie de toute cette génération de savants fous modernes façonnés par l'explosion atomique. Ces aventures ont été adaptées en bande dessinée. Voilà, et alors après, bon, le principe est celui-là, la vengeance. Mais tout l'attirail qui sera utilisé sera l'attirail de la technologie de science-fiction que l'on connaît tous. Bon, des villes sous-marines, des super armes, des bases secrètes, des hordes de séides aux ordres, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et on retrouve ce genre de savants japonais dans des séries extrêmement populaires, des séries d'espionnage de l'époque comme Vixenman. Et à l'origine, dans le premier volume, on a l'intervention aussi, non pas d'un savant fou lui-même, parce que ce personnage a été victime de l'explosion atomique, mais il a formé son fils pour le venger, et le fils va perdre à la fin du volume. Mais toute l'intrigue, voilà, découle de l'explosion atomique qui s'est produite au Japon. Et enfin, là, on a le savant fou que l'on connaît tous et que l'on aime tous, et qui est un peu la synthèse de tout ce que j'ai dit, parce que c'est les aventures de Bob Moran, c'est comme un vaste sac, on peut tout y trouver. Et l'ombre jaune, c'est Fu Manchu, mais qui va après acquérir, au fur des aventures, tout un tas d'attributs que Fu Manchu n'avait pas. Et une des inventions les plus intelligentes d'Henri Verne, c'est le duplicateur. Et c'est très pratique parce que ça lui permet de donner une morale à ses histoires, c'est-à-dire que le savant fou va être battu à la fin de l'histoire, il va même être tué, donc puni. Mais il n'est pas bête, l'ombre jaune. Il a inventé un appareil qui lui permet de se cloner immédiatement une fois qu'un récepteur a constaté la fin de l'émission d'une puce qu'il porte à l'arrière du cou et qui génère donc l'apparition d'un clone. Ce qui fait qu'après la mort de l'ombre jaune, on n'est pas étonné de le voir revenir puisqu'il a inventé un appareil qui lui permet de le faire. C'est astucieux et puis ça donne une originalité à certaines histoires parce que le duplicateur peut mal fonctionner. Le récepteur qui transmet l'ordre de duplication peut foirer. Donc, on va transmettre deux ordres de duplication au lieu d'un. Et voilà qu'apparaissent deux ombres jaunes, alors que théoriquement, il ne devrait y en avoir qu'une. Et ainsi de suite. Donc, plutôt intelligent. Alors, les inventions se multiplient et donnent lieu à des romans qui sont très, très inégaux. Mais dans l'ensemble, le personnage reste mémorable. Il va prendre une autre nature le jour où il va investir notre domaine, c'est-à-dire la science-fiction, où il va pouvoir se propulser dans l'espace, voire dans le temps. Et on a là une belle série de romans pour adolescents, mais qui sont parfaitement lisibles, qui sont rapides, qui traitent de thèmes qui vont au-delà de la menace scientifique ou écologique. Et l'ombre jaune va acquérir de la chair tout au long de ses romans. Et il va se justifier. Ses justifications sont admissibles. Alors il y a encore des restes de Fu Manchu. Mais il y a un idéalisme écologique qui apparaît. Donc on ne veut pas forcément reconstituer la Chine impériale. On veut donner à la Terre un second départ. Et un départ où la civilisation occidentale aura été balayée pour laisser place à un peu plus d'humanité. Bon, alors après, on continue la série de romans, ça a été adapté en bande dessinée, bien entendu. Et voilà qu'arrive dans les années 70, sous une autre plume que Henri Verne, un autre savant fou dans les aventures de Bob Moran, et ça va être à partir des voleurs de mémoire où on va assister à sa métamorphose, l'apparition du tigre. Et le tigre, c'est une idée profondément originale. Et on va retrouver là aussi des éléments dont j'ai déjà parlé. C'est un savant qui est anodin, mais qui a trouvé le moyen de transférer dans le corps d'un individu l'intellect de plusieurs de ses collègues. Donc il va capturer 12 de ses collègues qui sont des sommités mondiales dans des domaines scientifiques très différents et transférer leur cerveau dans le corps, en l'occurrence, d'un mendiant. Et ce qui va provoquer l'éclosion d'un nombre de passerelles entre les disciplines scientifiques qui va permettre de faire à la science un bond quantitatif et qualitatif très important. Donc le tigre va devenir un personnage majeur dans la série de Gomorrah grâce à ses facultés. Heureusement, l'astuce de l'auteur consiste à implanter ses spécialités et ses intellects extrêmement puissants dans le corps d'un clochard alcoolique. Et petit à petit, on verra que cette espèce d'atavisme va prendre le dessus et va perturber la puissance intellectuelle qui a été composée. Et ça va donner aussi une facette de fragilité au personnage qui permettra évidemment la réalisation de toute une série de romans sans tomber dans l'impossibilité. Le tigre va être exploité un certain temps par les auteurs de Gomorrah, ou disons l'auteur, même s'il n'est pas là, pour ménager la susceptibilité de Henri Verne, mais on va vite quand même se rendre compte qu'on a un problème. On avait déjà un savant fou, c'était Lanrejean, et puis on a créé un deuxième qui finalement est aussi puissant que lui, si ce n'était cette petite faiblesse de l'alcoolisme. Donc, dans ce roman, on va finir par rejoindre les deux personnages, et Lanrejean va s'emparer du tigre, et finalement là, va révéler l'intérêt que l'on peut avoir pour le personnage, puisque c'est lui qui va gagner. C'est Lanrejean qui va sortir victorieux de ce confrontement entre les deux savants fous des aventures de Gomorrah. Voilà. Donc on va passer un peu un certain nombre de savants fous sérieux, mais il ne faut pas oublier la littérature pour jeunes, et on va retomber un peu sur le Picsou Magazine du début, et pour voir que la figure du savant fou est utilisée dans la littérature enfantine. Mais là, on n'a pas la même image du savant fou. Le savant fou, c'est un poète. Et donc, il peut avoir une fille qui va maîtriser la technologie tout en étant, elle aussi, poétesse. Et voilà, on a là un album qui explique ce phénomène. Et le savant fou va être exploité sur un monde enfantin. Et on a même des petites figurines, des petits Lego, ainsi de suite, qui présente l'archétype du savant fou. Là, on va retrouver le boucher. Sa blouse est pleine de sang. C'est un expérimentateur. Il a à la main un récipient qui contient probablement la solution du docteur Jekyll. Mais on a une vision finalement esthétique du savant qui est tout à fait caricaturale et archétypale, mais qui est déclinée sur un mode humoristique. On a le front haut, mais on voit qu'il y a un petit picot dessus pour rajouter une perruque, parce que la perruque, c'est quand même un signe distinctif du savant fou. Voilà, là, il y a un livre d'expérimentation où on reconnaît le savant fou à sa perruque. Il y en a partout dans la littérature enfantine, le savant fou, ça pue. Voilà. Et puis même, des fois, quand on écrit des livres sérieux, on va utiliser cette image de la folie du savant. Là, on a le savant fou de Gottlieb. Mais lui, il a de bonnes raisons d'être fou, c'est qu'il a pris une bombe sur la tête.
Il s'agit de Newton.
D'autres savants fous, alors là, j'aurais pu en présenter des quantités. Donc c'est l'imagerie populaire qui s'est emparée du savant fou. Et on voit bien que même si on peut reconnaître dans l'image une origine maléfique, on a plutôt basculé du côté du docteur Brown, de retour vers le futur. C'est-à-dire que c'est quand même un brave bourre. C'est un poète un peu illuminé, mais qui est finalement pas si dangereux que ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le savant fou, il se rapproche